VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30, temps universel, du lundi 10 février 2020. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Au Nigeria, une attaque djihadiste fait au moins 30 morts près de Maiduguri, dans l'est du pays. Un gendarme malien a été tué dans une attaque dans la région de Kai, dans l'ouest du pays. Pendant ce temps, l'armée prépare son retour à Kidal.
Les Famans sont en ce moment en train de se préparer pour être déployés à Kidal, conformément à tous les accords.
L'administration Trump dévoile ce lundi sa proposition de budget qui prévoit une hausse des dépenses militaires et une baisse de l'aide au développement. Le bilan de l'épidémie de coronavirus dépasse le cap des 900 morts. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et le sport. Mais tout d'abord, le journal. Au Nigeria, au moins 30 personnes ont été tuées dans une attaque dans l'état du Borno, où sévit le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
D'après Babakoura Kolo, membre d'une milice locale, les assaillants s'en sont pris à 3 autocars qui se rendaient à Maiduguri, mais qui ont dû s'arrêter en raison du couvre-feu. Il a ajouté que des chauffeurs de camions et leurs assistants sont morts, brûlés vifs. Ils ont ensuite pillé le village avoisinant avant d'y mettre le feu, enlevant des femmes et des enfants. Ahmad Abdourahmane Boundi, porte-parole du gouvernement local, fait état des 18 véhicules brûlés, une trentaine selon la milice locale qui combat les djihadistes. Cette attaque n'a pas encore été revendiquée. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, une faction de Boko Haram, depuis plusieurs semaines multiplie les enlèvements et attaques sur la route entre Maiduguri et Damaturu. Début décembre, 14 personnes, dont 2 travailleurs humanitaires, ont été enlevées à Jacana. Ce conflit a fait 35 000 morts et 2 millions de déplacés depuis 2009.
L'armée malienne a entamé ce lundi son déploiement vers Kidal, dans le nord du pays. « Nous venons de quitter Gao pour Kidal. Il n'y a pas de problème pour le moment », a dit un officier sur le couvert de l'anonymat. Il précise que l'opération bénéficie du soutien de la mission de l'ONU au Mali. Une commission technique de sécurité réunissant des représentants des forces maliennes, de l'ex-rébellion, de la mission de l'ONU MINUSMA et des différents intervenants étrangers au Mali ont annoncé la semaine dernière que ce retour, qui est un des éléments essentiels de l'accord d'Alger, allait débuter ce lundi. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Par ailleurs, toujours au Mali, la brigade de gendarmerie de Djema dans la région de Kidal, dans la région de Kai plutôt, à l'ouest du pays, a été attaquée par des hommes en armes non identifiés. L'attaque s'est déroulée ce lundi 10 février aux environs de 4 heures du matin. Le point avec notre correspondant dans la région, Issa Bakili.
Le bilan, selon une source sécuritaire, est des morts côté FAMA, forces armées du Mali, et 2 morts côté assaillants. Le ministre de la Communication, Ya Sangaré, sur son compte Twitter, affirme que le bilan provisoire serait d'un gendarme décédé, 2 autres blessés. Côté assaillant, 2 abattus. Les blessés ont été transportés à l'hôpital. Depuis quelques mois, des hommes armés non identifiés ont été signalés dans cette zone de la région de Kai. Une unité spéciale de la lutte antiterroriste a été déployée entre Kolokani et Djema, rapporte le ministre de la Sécurité, le général Salif Traoré. C'est cette unité, appelée Forsat, qui aurait donc infligé cette résistance et ses pertes à ses assaillants. Un ratissage est en cours et les renforts sont arrivés sur les lieux pour sécuriser la zone, affirme le ministre. Les autorités régionales, locales et communales se sont rendues sur les lieux pour constater les dégâts. Issa Bakili, Kai pour la VOA.
Le commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité plaide pour un rôle plus important de son organisation dans le règlement de la crise libyenne. L'ONU a besoin de nous maintenant, a assuré Ismaël Cherghi lors d'une conférence de presse au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, où l'organisation est réunie en sommet. C'est un problème africain où nous avons une sensibilité que peut-être d'autres n'ont pas, a-t-il ajouté, se faisant l'écho de nombreux responsables de l'Union qui ont plaidé ces dernières semaines pour un poids plus important de l'Union africaine dans ce dossier. En Algérie, le parquet a requis 20 ans de prison contre Saïd Bouteflika, frère et ex-conseiller de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika et de 3 de ses co-accusés. Leur procès en appel a démarré hier à Blida, à une cinquantaine de kilomètres au sud d'Alger. La justice française a condamné en appel Théodorin Obiang, vice-président de Guinée équatoriale, à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende. Il est reconnu coupable d'avoir frauduleusement bâti un patrimoine considérable en France.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a présenté ou devrait présenter d'un moment à l'autre son projet de budget pour l'année fiscale 2021, une enveloppe d'environ 4 800 milliards de dollars prévoyant le financement de projets d'infrastructures, de même qu'une réduction des programmes sociaux et l'aide internationale. Les précisions de Timothée Donangmaï.
À noter dans ce budget l'allocation de 2 milliards de dollars à un projet cher au président Trump, la construction d'un mur le long de la frontière avec le Mexique pour lutter contre l'immigration clandestine. Une baisse de 6,6 milliards par rapport à sa requête pour 2020 qui avait été bloquée par la majorité démocrate de la Chambre des représentants. Autre proposition susceptible de soulever l'objection des démocrates, une réduction de 21% des fonds alloués à l'aide internationale qui passeront de 55,7 milliards à 41,1 milliards de dollars. Les dépenses militaires, elles, augmenteront de 0,3% pour atteindre 740 milliards et demi de dollars, avec notamment une augmentation des fonds alloués aux anciens combattants. Pour l'ancien chef d'état-major interarmé Mike Mullen, couper l'aide internationale affectera les initiatives civiles américaines qui, selon lui, réduisent justement la nécessité des interventions militaires. L'administration Trump compte par ailleurs économiser 70 milliards en instituant des conditions plus strictes d'accès à l'assistance aux handicapés, autant de mesures qui susciteront un bras de fer avec les démocrates, surtout en cette année électorale.
Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'est alourdi en Chine, dépassant les 900 morts. Le président Xi Jinping a appelé à des mesures plus fortes et décisives contre la maladie. Claire Mongibourg.
40 000 personnes sont infectées en Chine, des chiffres qui confirment une certaine stabilité dans la progression de l'épidémie. Le président chinois, le visage recouvert d'un masque de protection pour la première fois, s'est rendu dans un quartier résidentiel de Pékin pour assister aux efforts de lutte contre la maladie et visiter un hôpital. Il a reconnu que l'épidémie au Hubei et à Wuhan reste très grave et il a appelé à prendre des mesures plus fortes et décisives pour enrayer la contagion. Des mesures radicales ont pourtant déjà été prises avec notamment le confinement des 56 millions d'habitants du Hubei, soit la population totale de la Tanzanie. Le pouvoir chinois a été critiqué pour avoir tardé à réagir à l'épidémie et avoir réprimandé des lanceurs d'alerte, dont l'un d'eux, un médecin de 34 ans, est décédé vendredi. En 24 heures, 97 décès et 3000 nouveaux cas ont été répertoriés en Chine. À l'étranger, une personne est morte aux Philippines et une autre à Hong Kong. Avec 8 cas au Royaume-Uni, le gouvernement britannique vient de classer le coronavirus en menace grave et imminente pour la santé publique.
Le pape François se rendra le 31 mai dans l'archipel de Malte en première ligne pour accueillir des navires de migrants naufragés en provenance de Libye. Invité par le président maltais et l'Église catholique, le souverain pontife effectuera son premier voyage apostolique de l'année 2020. Le pape François ne cesse d'alerter l'opinion sur le drame des migrants et appelle régulièrement l'Union européenne à être plus accueillante. La Cour européenne des droits de l'homme a pour la première fois accepté d'examiner une requête déposée contre la France pour son refus de rapatrier une famille de djihadistes. Deux grands-parents avaient saisi début mai la Cour pour obtenir la condamnation de la France pour son refus de rapatrier leur fille née en 1991, partie en Syrie en 2014, où elle a eu 2 enfants. Blessés, ils sont revenus dans le camp d'Al-Hol au Kurdistan syrien et leur état de santé serait déplorable selon les plaignants. Près de 700 000 personnes ont été déplacées depuis décembre dans le nord-ouest de la Syrie, selon un nouveau bilan fourni ce lundi par les Nations Unies. Le régime de Damas, soutenu par l'aviation russe, mène une offensive contre le dernier grand bastion djihadiste et rebelle en Syrie. En Irak, un manifestant a été tué ce lundi alors qu'il tentait de perturber le fonctionnement d'une université à Nasiriyah, dans le sud du pays. Les heurts opposant manifestants et forces de l'ordre sont de plus en plus fréquents aux abords des écoles et des administrations dans le sud de l'Iran. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique dans la Minute Éco présentée par Nanit Talani.
Le Botswana, qui abrite la plus importante population d'éléphants au monde, a vendu des permis de chasse allant de 330 000 à 430 900 dollars lors des premières grandes enchères depuis le rétablissement très controversé de la chasse sur son territoire en mai. Le président botswanais a rétabli la chasse interdite 5 ans plus tôt par son prédécesseur pour la survie des pachydermes. Désormais, jusqu'à 400 pourront être tués chaque année. Le chef de l'État estime que la croissance incontrôlée des éléphants menace les moyens de subsistance, surtout les récoltes et les populations. La Côte d'Ivoire veut produire 800 000 tonnes de noix de cajou cette année. Cela pourrait intensifier la lutte contre la contrebande de l'anacarde vers les pays voisins et qui fait perdre à l'État ivoirien plus de 17 milliards de francs CFA par an. Le ministre de l'Agriculture, Kobeno Kwasi Adjoumani, a annoncé la mise en place d'une stratégie gouvernementale de lutte devant aboutir au retrait des agréments d'exportateurs impliqués dans la contrebande. Le secteur ivoirien de l'anacarde compte 250 000 producteurs et emploie 2 millions de personnes. Pour terminer, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'oppose à la suppression de vols intérieurs par la compagnie nationale South African Airways dans le cadre d'un plan pour la sauver de la faillite. Nous voulons en discuter parce que cette compagnie est non seulement un grand symbole national, mais aussi un levier économique qui permet aux gens de se déplacer dans le pays, a-t-il expliqué.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Tournoi féminin UFOA-A, les pays fixés sur leur sort.
Oui, le comité d'organisation du tournoi de l'UFOA, l'Union des fédérations ouest-africaines zone A, a procédé au tirage au sort de la compétition. Les 8 nations participantes sont réparties en 2 groupes de 4. Le groupe A comprend la Sierra Leone, pays hôte, le Cap-Vert, la Guinée et le Sénégal. On retrouve dans le groupe B le Mali, la Gambie, le Libéria et la Guinée-Bissau. Seule la Mauritanie a décliné l'invitation, initialement prévue en fin d'année dernière. Le tournoi aura finalement lieu du 25 février au 7 mars.
Fin de collaboration entre Juan Carlos Garrido et l'Étoile du Sahel.
Oui, le technicien espagnol n'est plus l'entraîneur du club tunisien. Juan Carlos Garrido n'aura passé que 4 mois à la tête de l'Étoile du Sahel. Lui qui est arrivé en octobre dernier. L'Étoile du Sahel a fait savoir qu'ils ont trouvé une entente pour mettre fin au contrat qui lie les deux parties, même si l'ancien entraîneur de Villarreal a qualifié le club tunisien pour les quarts de finale de la Ligue des champions CAF. Il fait les frais de sa récente déclaration à l'endroit de la direction sur la gestion de l'équipe. « Quand je suis arrivé en Tunisie, je connaissais la situation du club. Je savais qu'il n'y avait pas de stade, que les joueurs n'étaient pas payés, que la stabilité administrative n'existait pas. » Je suis franchement fatigué des problèmes dans lesquels le club patauge, a laissé entendre Juan Carlos Garrido. Le nom de l'ancien sélectionneur de l'Égypte, Hassan Cheata, revient avec insistance pour sa succession.
Grosse prime en vue pour Sadio Mané, Salah et leurs coéquipiers en cas de sacre en championnat.
Oui, actuel leader du championnat, Liverpool surplombe son dauphin Manchester City avec 22 points. Selon le Daily Mail, les joueurs des Reds se partageront une prime de 4,7 millions d'euros. Si le club est champion d'Angleterre, le partage tiendra compte de tous les joueurs utilisés en championnat cette saison. Toutefois, la prime de chacun sera calculée en fonction du nombre d'apparitions en Premier League. Titulaire indiscutable dans le dispositif de Jurgen Klopp, Sadio Mané et Mohamed Salah devraient s'attendre à une bonne part dans cette somme.
Utah, Boston et Atlanta gagnent de peu en NBA.
La NBA a encore accouché de rencontres des plus serrées. Bojan Bogdanovic, 21 points par match en moyenne cette saison, n'a pas brillé contre Houston avec 8 petits points. Mais l'ailier croate a fait basculer le sort du match avec un panier à 3 points au buzzer. Pour la victoire du Jazz 114-113, Côté Houston, James Harden a encore une fois soigné ses statistiques avec un triple-double, 28 points, 10 rebonds et 10 passes décisives. Mais les Rockets ont enchaîné une deuxième défaite consécutive. Boston a aussi bataillé contre une coriace équipe d'Oklahoma City pour empocher un petit point, sa 7e victoire consécutive, 112-111. Le roi du suspense s'appelle Atlanta, qui a eu besoin de 2 prolongations pour vaincre New York, 140-135. Les Washington Wizards sont tombés face à Memphis, 106-99. Les Los Angeles Clippers ont démoli Cleveland, 133-92.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta annonce que son armée est en route vers Kidal, dans le nord du pays. Cet ancien fief des rebelles Touareg échappe depuis longtemps à l'autorité de l'État. Le détachement devrait entrer dans Kidal vendredi. Environ 200 hommes à bord de quelques dizaines de véhicules sont en route. Kadiatou Traoré a d'abord joint un habitant de Kidal qui a voulu garder l'anonymat.
Très honnêtement, on a dit ça il y a belle lurette que l'armée malienne doit arriver, c'est-à-dire les FAMA, à Kidal. Bon, maintenant, la date en tout cas qui a été prévue, c'est le 10. Bon, aujourd'hui, nous sommes le 10. Jusqu'à présent, en tout cas, on n'a pas vu l'armée et puis on n'a reçu aucune information qui prouve que l'armée malienne donc est présente dans la ville de Kidal pour le moment. On attend.
Okay. Est-ce que les anciennes troupes de maintien de la paix sont toujours là? Je veux parler de Barkhane ou de la MINUSMA ou d'autres troupes étrangères. Est-ce qu'ils sont toujours là?
Oui, la Barkhane, elle est là et puis... la MINUSMA et puis la force tchadienne également, elles sont présentes, elles sont toutes présentes dans la ville de Kidal.
Un habitant de Kidal, où en est l'armée donc malienne dans ses préparatifs pour rejoindre Kidal? Kadiatou Traoré a joint le colonel-major Diaran Kone, porte-parole de l'armée.
Il n'y a pas grand-chose à dire, sauf qu'à confier, à répéter que les FAMA sont en ce moment en train de se préparer pour être déployés à Kidal, conformément à tous les accords, conformément à toutes les conventions, ça et là.
Quand ils seront à Kidal, où ils seront déployés? Il n'y a que 2 camps. Il y a un camp qui est occupé par les forces étrangères et l'autre camp est occupé par la CEMA. Où est-ce que les troupes maliennes seront déployées à Kidal?
Dans tous les cas, l'idéal le voulu. On convenait avec toutes les parties signataires, avec toutes les parties vraiment, ça c'est les fameux vont se déployer, mais maintenant, où, quand, comment, alors ça, je ne saurais parler de ça, le jour où ceci sera effectif et tout sera communiqué, nous sommes en train de communiquer sur tout ce que nous faisons, il n'y a aucun secret dessus. Quand les femmes arriveront à Kidal, ça sera dit, de comment, le pourquoi, le où, et on expliquera tout ça.
C'était le colonel-major Diaran Kone depuis Bamako. Alors, quelle est l'importance de Kidal, cette ville du nord malien, d'où sont parties toutes les rébellions depuis l'indépendance? Kadiatou Traoré a aussi joint notre confrère Moussa Boli à Bamako.
Kidal est très important pour le Mali parce que Kidal ne saurait être une menace pour l'intégrité territoriale parce que conserver l'autonomie ou de l'indépendance à Kidal, c'est vraiment ouvrir la porte à toutes les aventures qui, à la longue, vont totalement détruire le tissu de l'unité nationale au Mali. Finalement, la République va risquer de violer un éclat. Kidal, c'est un véritable pour la stabilité du Mali. Et ce n'est un secret pour personne. Le fait que nous soyons encore dans la crise, c'est parce que l'opération Serval n'est pas arrivée à Kidal. Les Français ont empêché l'armée malienne de prendre Kidal, de s'installer à Kidal, de faire retourner l'administration et tout. Et nous savons que beaucoup de ces groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale ne sont pas sincères dans leur engagement pour la République. Ils sont les mêmes chargés pour le terrorisme. Donc, Kidal, c'est un peu le ventre mou de la lutte contre le terrorisme. Les armes rentrent, les nationaux rentrent et sortent comme ils disent. Donc, l'armée malienne à Kidal, c'est déjà un danger que ce ne serait plus un repli stratégique pour le terrorisme. Donc, Kidal est très important pour la République du Mali.
C'était Moussa Boli, journaliste à Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Togo, la campagne électorale pour la présidentielle bat son plein. Les candidats vont à l'assaut de l'électorat, mais c'est également l'occasion pour la population d'exprimer ses attentes. Des attentes qui vont de l'économie au social en passant par les droits humains. Le reportage à Lomé de Kay Lawson.
Les candidats à la présidentielle du 22 février prochain sont sur le terrain. Ils sillonnent tout le pays à la rencontre des électeurs. Des électeurs qui privilégient ces moments pour faire part de leurs attentes. Pour Basile Ataï, la quarantaine avancée, conducteur de taxi-moto, le futur président doit s'assurer que la devise du Togo, qui est travail, liberté, patrie, devienne une réalité.
Ce que nous attendons, le futur président, c'est ce travail. Liberté et patrie. Nous voulons travailler. C'est à cause de ça qu'on cherche un bon travail, un bon paiement. Et on veut la liberté et la sécurité. Si on dit qu'avec cette élection, rien ne peut plus changer, c'est faux. Parce que ça sent bien que ça change.
Lors des rencontres avec les populations, le président sortant brandit un bilan ponctué par des performances économiques et sociales. Abdou Kérim, distributeur de journaux à Lomé, estime que le plus important est que la croissance puisse profiter à la population.
Ce que j'attends du futur président, c'est que l'économie puisse bouger. Nous voulons des grands investissements qui permettent de toucher la grande population. Parce qu'on parle de croissance, mais cette croissance n'est que l'ivresse. Ça ne touche pas le grand peuple. Mais nous voulons que cette croissance touche aussi le peuple, pour que le peuple puisse se débrouiller dans les différentes sphères de leurs activités.
Le meilleur programme de société pour le quinquennat 2020-2025 doit avoir pour priorité trois domaines que sont l'économie, l'éducation et la santé. Tel est le point de vue du commerçant Justin Kossi.
L'économie du Togo, aujourd'hui, ça ne va pas parce que les jeunes sont en chômage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la valorisation du prime des enseignants. Le troisième point, la santé. Parce que nos hôpitaux ne sont pas dotés du scanner.
De toutes les attentes, celle qui revient le plus est l'instauration de l'état de droit.
Un président qui prend en compte la démocratie, le respect des droits de l'homme, de tous les droits, je veux dire droits politiques, sociaux, économiques, la liberté d'expression.
Nous voulons vivre dans un état de droit où le droit de chaque citoyen est respecté à la hauteur de ses mérites.
Que ce futur président commence par respecter les droits de l'homme, que les libertés soient octroyées aux citoyens. Nous voulons qu'il n'y ait plus d'impunité pour qu'il y ait la paix sociale.
Les Togolais sont appelés aux urnes le 22 de ce mois pour élire leur futur président. Ce scrutin est une élection uninominale à deux tours, une première depuis 2002. C'est également la première fois que les Togolais de l'extérieur vont voter lors d'un scrutin national. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En Chine, le dernier bilan du coronavirus fait état de plus de 900 morts et de plus de 40 000 contaminations. Le président Xi Jinping a reconnu que l'épidémie au Hubei et à Wuhan reste très grave alors que des mesures radicales ont été prises. 56 millions de personnes sont interdites de déplacement en dehors de leur région. C'est le cas de Shermbaki Amar, doctorant à Wuhan.
Effectivement, nous sommes en quarantaine à Wuhan et c'est depuis le 23 janvier à partir de 10h00. Moi, je l'ai su la nuit à travers des informations parce que moi-même, le 23, j'avais acheté un billet pour voyager, mais malheureusement, le matin, quand je suis arrivé à la gare, ils m'ont dit que c'est déjà effectif la quarantaine, vous ne pouvez pas sortir. Ici, bon, on s'organise dans mon université. Il y a un code que tu peux scanner et il y a un supermarché qui fait une livraison deux fois dans la semaine.
Vous êtes également sportif, hein? Vous êtes ceinture noire et instructeur de kung-fu. Du coup, vous avez dû arrêter tous vos entraînements?
Bon, j'ai arrêté les entraînements à l'extérieur, mais j'ai aménagé dans ma chambre un petit coin pour faire mes entraînements.
Le président Macky Sall a déclaré que le Sénégal n'avait pas les moyens de rapatrier les étudiants il y a quelques jours, ce qui a déclenché la colère de parents sénégalais. Quelle a été la réaction de vos parents à vous?
D'abord, sur le discours du président, moi, d'après ce que j'ai écouté, moi, je me dis que le président n'a pas eu la bonne information, parce que disant qu'il n'y a aucun pays africain qui ne l'a pas encore fait, alors qu'on a vu le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie qui l'ont fait. En plus, on voit chaque jour d'autres pays qui rentrent, même hier, c'est le Vietnam qui vient de rentrer, donc on pense que le rapatriement, c'est possible jusqu'à la nouvelle heure. Et sur nos parents, normalement, comme tout parent qui a son enfant dans une ville où tu entends chaque jour qu'il y a une maladie, normalement, nos parents peuvent que nous rentrions.
Mais vos parents, à vous, qu'est-ce qu'ils disent?
Ils veulent, ils ont déjà dans un collectif et ils essaient de rencontrer l'autorité, ils essaient de rencontrer le président pour lui demander de vraiment organiser notre rapatriement au pays.
Est-ce que vous avez envie d'être rapatrié? Est-ce que les autres étudiants sénégalais également expriment le désir d'être rapatriés?
Oui, pour juste vous dire que dès le début, c'est nous qui avons émis le besoin d'être rapatriés au pays. En ce moment-là, même nos parents n'étaient pas impliqués dans le combat. C'est avec les informations et la presse là, qui a relayé toutes les informations que nos parents maintenant se sont mis dans la bataille et nous ont appuyé sur notre mot d'ordre de rapatriement.
Et si vous êtes porteur du virus, vous êtes confiant que vous pourrez être soigné correctement au Sénégal?
Pour le moment, nous sommes tous bien portants. Nous ne sommes pas malades, nous ne sommes pas porteurs de maladies. Et s'il arrive le malheur aussi, nous sommes vraiment confiants du système sanitaire de notre pays qui a eu à combattre vraiment l'Ebola, qui était une crise beaucoup plus profonde que cela.
C'était l'étudiant sénégalais Cheikh Mbacké Amar à Wuhan, en Chine, avec Claire Moïse-Jibour. La nuit dernière, ici aux États-Unis, a été marquée par une cérémonie des Oscars haute en couleur, bien que les minorités aient été pour la plupart exclues. C'est le film sud-coréen Parasite qui a eu la star de la nuit avec 4 Oscars, dont le meilleur réalisateur et le meilleur film. Penelope Poulou nous en dit plus. Le récit est d'Arzuma Compaoré.
C'était une grande soirée pour le cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho, qui a remporté 4 Oscars, dont ceux du meilleur réalisateur et du meilleur film pour son film Parasite, une sombre satire sur les inégalités sociales en Corée du Sud. Bong Joon-ho a salué le changement cette année de la catégorie du meilleur film étranger en meilleur film international, indiquant plus d'inclusion de la part de l'Académie pour les films non américains. Il a également commenté ce que cela signifie pour un film sud-coréen d'être primé aux Oscars. Le film de Sam Mendes, 1917, l'un des favoris cette année, retrace l'histoire de 2 soldats de la Première Guerre mondiale embarqués dans une course contre la montre pour délivrer un message censé sauver 1600 vies au front. Il a remporté 3 Oscars, dont celui de la meilleure photographie. Brie Larson, Sigourney Weaver et Gal Gadot, toutes connues pour jouer des super-héroïnes, ont ironisé la difficulté d'être une femme à Hollywood, tandis que Weaver a déclaré « Toutes les femmes sont des super-héros ». Hildur Gunnadottir a remporté un Oscar pour la musique du film Joker et dans son discours de circonstance, elle a encouragé les femmes à suivre leur passion et leur talent pour la musique. D'autres femmes ont également brillé au cours de la soirée, comme Julia Reichert, co-directrice du documentaire American Factory, et Carol Deisinger, réalisatrice du court-métrage documentaire « Apprendre le skateboard dans une zone de guerre si vous êtes une fille ». Dans les principales catégories d'acteurs, Brad Pitt a remporté l'Oscar du meilleur second rôle pour son interprétation d'un cascadeur dans le film de Quentin Tarantino « Il était une fois à Hollywood ». Réagissant à cette distinction, il a fait un commentaire politique sur le fait que le Sénat n'est pas appelé de témoin au procès de destitution du président Donald Trump. Il a déclaré « Ils m'ont dit que j'avais 45 secondes de plus que le Sénat a donné à John Bolton cette semaine. » Joaquin Phoenix a remporté l'Oscar du meilleur acteur et livré un message poignant sur l'inclusion. « Je pense que parfois nous sentons que nous défendons différentes causes. » Mais pour moi, je vois des points communs. Je pense que si nous parlons d'inégalité entre les sexes, de racisme, de droits LGBT, de droits des animaux, nous parlons d'injustice, a-t-il déclaré. Laura Dern, à elle, a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation d'une avocate à Los Angeles dans Wedding Story. Elle a aussi dénoncé l'exclusion des femmes réalisatrices comme Greta Gerwig par l'Académie.
Ouais.
Enfin, Renée Zellweger a reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de l'actrice et chanteuse emblématique Judy Garland dans Judy. Autre point à retenir de la soirée, Netflix n'a pas reçu autant de récompenses que prévu. La cérémonie était pleine de glamour et de paillettes, mais la vedette a été volée par Jane Fonda, qui a annoncé le gagnant du meilleur film et clôturé la cérémonie avec effervescence.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Georges Léonard Sagno. À la console, il y avait Nick Evanov, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.